Bonjour, mes frères. C'est merveilleux de vous voir tous en ce nouveau et magnifique jour du sabbat. J'ai une question à vous poser. Il y a un emblème sur le devant de ce pupitre. Connaissez-vous les mots de la devise qui figure sur le devant du pupitre? Pouvez-vous vous en souvenir? Pouvez-vous les rappeler? Les avez-vous mémorisés, par hasard? Je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent, et je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent par cœur. Est-ce le cas de tout le monde? Réfléchissez-y un instant. Voyez si vous pouvez vous souvenir de ces mots. Rappelez-vous-en. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose. Quand je suis entré dans cette salle avant mon message, j'ai dû vérifier les mots. Et il n'était pas exactement tel que je m'en souvenais. J'avais un autre verset en tête. J'avais une autre série de mots en tête. Mais ces mots ont été mûrement réfléchis, choisis et inspirés pour figurer sur le blason, sur l'emblème de l'Église, pour une très bonne raison. Alors, quels sont-ils? Je suis sûr que ceux d'entre vous qui ne s'en souviennent pas, tout comme moi, sont curieux de savoir ce qu'ils étaient, curieux de savoir quels sont ces mots. Ces mots ont une grande signification pour nous. Lisons-les. Des piliers reposant sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quelques versets vous viennent peut-être à l'esprit. Deux en particulier. L'un dans l'Apocalypse, concernant la sixième ère, et l'autre dans Éphésiens. Sur ce sur quoi repose l'Église? Quel est le fondement de l'Église? Mais encore une fois, je l'ai lu. Des piliers reposant sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, cette devise est-elle uniquement au futur? S'agit-il simplement d'un message d'espoir et d'inspiration, d'un ensemble de mots, d'une phrase évoquant ce qui viendra dans l'avenir? De ce que nous serons peut-être à l'avenir, ou bien cette devise, cette phrase, s'adresse-t-elle à vous et à moi aujourd'hui? Est-ce quelque chose vers quoi vous et moi devrions peut-être tendre? Quelque chose que vous et moi devrions peut-être devenir? Nous allons examiner cette devise. Et je voudrais peut-être remonter un peu dans le temps, à l'époque où l'emblème, le blason, a été créé. Remontons pas moins de 26 ans en arrière. Nous savons tous, et nous le voyons à travers les messages que nous recevons chaque semaine, à travers les messages que M. Pack nous transmet régulièrement, à quel point il s'investit dans ce qu'il nous prêche, dans ce qu'il nous apporte, concernant ce qui nous attend tout juste devant nous. Combien d'efforts, pourrions-nous penser, si nous repensons à l'époque où cette phrase a été inspirée, où cette phrase a été choisie, où cette phrase a été créée, apposée sur le blason, et où elle se trouve désormais pour vous et moi. Elle est désormais là comme une sorte de symbole, de modèle. Car je vais affirmer ce que vous et moi devons être dès maintenant. Pas dans l'avenir, pas dans le royaume. Mais vous et moi devons être des piliers reposant sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors que nous entrons dans le message, je vais vous laisser à tous une question. Nous efforçons-nous aujourd'hui d'être des piliers dans l'Église de Dieu? Afin que nous soyons des piliers dans le royaume de Dieu, dans le temple de Dieu, comme il nous le promet? Eh bien, j'ai fait référence à deux versets. Et ces deux versets figurent sur l'emblème. Lisons-les donc. Passons au premier, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Oui, cela fait référence à l'avenir. Cela fait référence à un temps où les saints recevront leur récompense. Lisons-le donc et laissons-nous inspirer par ce passage aujourd'hui. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, ainsi que le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Revenons au début de ce verset. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. C'est un objectif pour vous et moi. C'est une récompense pour vous et moi, pour avoir vaincu, pour avoir grandi, pour avoir suivi ce chemin. Apprenons également comment nous devons être aujourd'hui, ce à quoi nous aspirons aujourd'hui, pour devenir des piliers. Mais quel objectif? Quelle récompense? Quel jour ce sera? Passons maintenant à Éphésiens 2. Éphésiens 2. Nous venons de lire au sujet des piliers, ces futurs piliers que nous serons. Quels sont les piliers d'aujourd'hui? Sur quoi nous appuyons-nous? Allons à Éphésiens 2, verset 20. Nous allons lire le verset 20 pour commencer. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous nous appuyons donc sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lisons simplement le verset 19, afin d'avoir le contexte complet. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, mais vous êtes concitoyens des saints. Paul nous appelle donc, lui qui s'adresse aux Éphésiens, concitoyens des saints. Nous sommes frères et sœurs avec les saints et nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous faisons partie de la maison de Dieu, car nous savons que nous sommes dans l'Église de Dieu et que nous sommes édifiés sur, relisons-le, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien assemblé, s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. En fait, cela fait un peu écho, évoque un peu la promesse que nous venons de lire dans l'Apocalypse, celle d'être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous, au verset 22, vous-même, vous le construisez ensemble pour que Dieu y habite par l'Esprit. Je voudrais insister à nouveau sur ce point. Rappelez-vous, cela fait partie de la devise, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous voyons donc, à travers ces deux versets, ces deux passages, d'où provient cette devise, ce que nous devrions tous nous efforcer d'être. Maintenant, sur quoi nous appuyons-nous? Je vais affirmer et déclarer que nous nous appuyons sur la vérité. Eh bien, comment cela se fait-il? Nous nous appuyons sur le fondement des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, comme nous venons de le lire dans Éphésiens, mais comment nous appuyons-nous sur la vérité? Allons à Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Je me rends ici en particulier pour montrer une prophétie, et nous venons justement de lire cette prophétie. Le fait qu'elle se soit accomplie prouve la parole de Dieu. C'est important à tous les égards. Chaque occasion qui se présente est l'occasion de prouver la parole de Dieu. Dieu a dit que quelque chose allait arriver, et si nous venons de lire dans Éphésiens, cela s'est bel et bien produit. Il l'a fait. Ici, dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, je pose en Sion, comme fondement, une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, un fondement solide. Lisez simplement ce qu'est ce fondement solide. Nous venons de lire ce qu'est cette pierre angulaire. À titre de rappel, pour nous aider à établir ce point, allons à Matthieu 16. Mais nous venons de lire dans Ésaïe, où Ésaïe, l'un des grands prophètes, parle de qui sera la pierre angulaire, puis nous lisons cette prophétie accomplie, ce qui confirme encore davantage la parole de Dieu. Ce qui confirme encore davantage que la Bible est la parole de Dieu. Passons maintenant à Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous parlons d'un fondement, le fondement sur lequel nous nous appuyons. Nous nous efforçons de comprendre en quoi nous sommes des piliers, et, en tant que tels, ce que nous devons faire. Bien sûr, je suis dans Marc et non dans Matthieu. Passons donc à Matthieu chapitre 16, verset 18. Il s'agit simplement d'un passage fondamental, destiné à nous rappeler à tous. Et moi, je te le dis, c'est Christ qui parle. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Bien sûr, Christ parle de lui-même, debout devant le rocher, c'est Sarré, je crois cet immense rocher derrière lui, qu'il utilise comme exemple de lui-même. C'est sur ce rocher qu'il bâtira l'Église. Il bâtira l'Église du Nouveau Testament. Bien sûr, Pierre joue un rôle crucial dans tout cela. C'est le fondement sur lequel nous nous appuyons. Passons à la première épître aux Corinthiens, en fait, passons plutôt à Jean 17, verset 17. Nous voyons donc le fondement. Quel est ce fondement? Et là encore, il s'agit d'un verset bien connu, un verset auquel nous nous référons régulièrement. Nous le lisons souvent lors du culte de la Pâque, un verset que nous pouvons tous facilement garder à l'esprit. Mais Jean 17, verset 17, est essentiel lorsque nous examinons comment nous nous appuyons sur la vérité, sur ce qu'est ce fondement. Il s'agit de la prière que Christ a adressée au Père juste avant d'être crucifié. Au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ces quelques mots recèlent une grande richesse. Ce court verset est très riche, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous concentrer cet après-midi. Tout d'abord, « Sanctifie-les ». Nous savons que « sanctifier » signifie « mettre à part ». Nous sommes ceux-là, nous faisons partie de l'Église de Dieu, nous sommes ceux qui ont été appelés à sortir du monde, mis à part du monde dans un but précis et pour une raison bien précise. Et Christ demande au Père de nous mettre à part. Et comment nous demande-t-il d'être mis à part? Par la vérité. La vérité étant le fondement dont nous parlons. Et quelle est cette vérité? S'agit-il simplement d'un concept? D'une théorie? La vérité est-elle simplement la vérité? Non, elle est décrite. Elle est exposée ici. La réponse est là, à notre disposition. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, prononcée, puis consignée par écrit dans la Bible, voilà la parole de Dieu. Nous venons de voir la parole de Dieu confirmée par deux passages bibliques. Une prophétie annoncée, une prophétie accomplie. La parole de Dieu est vraie. La vérité est ensuite enseignée par les enseignants de Dieu, par les serviteurs de Dieu, et nous, en tant qu'Église de Dieu, sommes mis à part. Commençons à considérer les apôtres, les prophètes et Christ lui-même. Leurs paroles, inspirées par Dieu, constituent la vérité sur laquelle nous nous appuyons. Passons à 1 Timothée 3, verset 15. Il y est question d'être mis à part. C'est, je dirais, en quelque sorte, un verset qui résume ce dont nous faisons partie. Ce qu'est l'Église de Dieu. 1 Timothée 3, verset 15. Permettez-moi de commencer par le verset 14, simplement pour donner le contexte, car la première partie du verset 15 est un peu difficile à comprendre. Examinons le contexte à partir du verset 14. Je t'écris ces choses, en espérant venir bientôt chez toi. Paul espère donc venir bientôt chez Timothée. Mais si je tarde, c'est afin que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Si l'on commence directement au verset 15, on lit, « Mais si je tarde, tu ferais mieux de savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. » Eh bien, pourquoi Paul tarde-t-il? Il écrit une lettre d'instruction. Il souhaite venir leur rendre visite. Mais voici la lettre d'instruction. Il se peut donc que cela lui prenne un certain temps avant d'arriver. Mais ce sur quoi je veux vraiment m'attarder, c'est la suite du verset 15. Comment se comporter dans la maison de Dieu? C'est une déclaration puissante, qui est l'église du Dieu vivant. Dieu est vivant. Quelle déclaration! Quel rappel! Nous ne voyons pas nécessairement Dieu face à face. Dieu est au ciel. Dieu n'est pas visiblement devant nous, mais Dieu est vivant. Cette affirmation à elle seule devrait nous inspirer, devrait nous rappeler qui nous servons. Et il poursuit, l'Église du Dieu vivant, le pilier et le fondement de la vérité. Alors, qu'est-ce que l'Église de Dieu? Quel est ce groupe qui est mis à part, qui est sanctifié? C'est le pilier et le fondement de la vérité. Alors que nous examinons et étudions comment être des piliers, comment devenir des piliers, ce qui est intéressant dans cette affirmation, je vais faire une petite parenthèse, c'est l'utilisation du mot « pilier ». Le verbe n'est pas au pluriel, le mot n'est pas au pluriel. Il est dit que l'Église est le pilier et le fondement de la vérité. Si nous avions continué à lire Jean 17, nous aurions lu comment Christ nous veut et comment l'Église devrait être, elle devrait être une. De telle sorte qu'on ne puisse faire la différence entre nous. Nous et Dieu. Nous et Christ. Et nous les uns avec les autres. Il n'est donc pas étonnant qu'ici, Paul n'ait pas parlé de nous en tant que piliers individuels. Il a parlé de nous en tant que piliers uniques, unis alors que nous nous tenons ensemble sur la vérité de Dieu, sur le fondement de la vérité. Autre élément intéressant, je suppose qu'on pourrait dire, concernant l'histoire de l'Église, l'histoire de l'époque, l'Église à laquelle nous appartenons, nous connaissons tous le magazine. Nous le recevons tous les 2 mois. Le magazine Astérisque The Pillar Astérisque. Connaissez-vous son titre complet? Je sais que celui-ci est peut-être plus facile à retenir que ce qui figurait sur l'emblème. Ce qui figure sur notre blason. Mais c'est le pilier de la vérité. Voilà le titre complet. Encore une fois, comment cela a été inspiré? On y a longuement réfléchi. Beaucoup de réflexions, de prières, et finalement l'inspiration venue de ce verset. Le magazine Astérisque The Pillar Astérisque, écrit pour nous, les membres de l'Église. Rédigé à l'intention des membres de l'Église pour nous aider à grandir dans la vérité, à être enracinés dans la vérité, comme nous venons de le lire dans 1 Timothée 3, mais voici une petite note historique. C'est de ce verset que provient le titre de ce magazine, destiné spécifiquement à vous et moi pour que nous soyons nourris au sein de l'Église de Dieu. Or, comme nous l'avons vu en étudiant ce passage, nous nous tenons sur la vérité. Nous nous tenons sur un fondement. Toutes les vérités enseignées par l'Église de Dieu parviennent à l'Église par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes de Dieu, et aujourd'hui, par l'intermédiaire de notre apôtre vivant. Toutes les doctrines, tous les enseignements passent par là, par ce processus. En fin de compte, nous avons lu que ces paroles sont les paroles de Dieu. Ces enseignements sont les enseignements de Dieu. C'est le fondement sur lequel, en tant que pilier aujourd'hui, nous devons nous tenir. Nous devons nous tenir sur le fondement de la vérité de Dieu. Et en tant que pilier, passons au point suivant. En tant que pilier, que devons-nous faire? Lorsque nous nous tenons debout, nous contentons-nous simplement de rester là? Parfois, au travail, on vous dit, reste là et fais joli. Est-ce tout ce que nous sommes censés faire? Est-ce tout ce que nous sommes censés faire, simplement rester là? En tant qu'homme, en tant que garçon, lorsque je travaillais à la pépinière chez moi, on me disait parfois cela. Je n'aimais pas trop cela, mais on me disait, oui, reste là, attends. C'est une sorte de digression. Cela n'a rien à voir avec le sujet qui nous occupe ici. Que devons-nous faire en tant que piliers? Nous devons prouver la vérité. Puisque nous nous tenons sur le fondement, afin de pouvoir tenir fermement, nous devons prouver la vérité. Allons à 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Un verset simple. Ce chapitre en lui-même constitue une excellente étude à part entière, sous un angle différent. Mais au verset 21, nous lisons « Examinez toutes choses ». Une instruction qui s'adresse à nous. Une instruction qui s'adresse à chacun d'entre nous. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. En tant que pilier de l'Église de Dieu, nous devons tout examiner. Et si vous pensez à un pilier, les deux parties de ce verset correspondent à ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous devons tout examiner, tout mettre à l'épreuve, tout connaître, tout ce qui nous est enseigné. Mais nous devons nous en tenir fermement. Que fait un pilier? Un pilier tient bon. Un pilier reste sur ses positions. Un pilier ne bouge pas. Deuxième partie de ce verset, tenez fermement ce qui est bon. Ainsi, après avoir examiné, après avoir vérifié le fondement des vérités qui nous ont été enseignées, après les avoir confirmées dans notre esprit, nous devons nous y tenir fermement. Restez immobile. Tenir bon. Passons au chapitre 17 des Actes. L'inspiration d'un groupe de frères, d'une congrégation qui nous a précédés, devient une instruction pour vous et moi. Acte 17. Nous venons de lire, examiner tout, et voici un exemple vivant de ceux qui l'ont mis en pratique à l'époque. Ils l'ont fait avec diligence et régularité. Acte 17, un exemple pour vous et moi. Verset 10. Et les frères envoyèrent aussitôt, de nuit, Paul et Silas Béré. Ceux-ci, une fois arrivés là, se rendirent à la synagogue des Juifs. Et ces gens-là étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Intéressant. Nous venons de lire le passage sur Thessalonique. Nous venons de lire une lettre adressée à ceux qui s'y trouvaient. Et ils reçurent la parole avec une grande disposition d'esprit. Ils étaient donc tous ouverts. Leur esprit était ouvert pour recevoir la vérité. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils n'avaient donc pas besoin de lire la lettre aux Thessaloniciens comme nous l'avons fait. Ils examinaient déjà toutes choses. Ils examinaient les Écritures régulièrement, chaque jour, pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Ce que les apôtres, et en particulier l'apôtre Paul, leur enseignaient. Oui, mes frères, vous et moi devons également le faire. En tant que piliers, nous devons vérifier la vérité. Nous devons tenir bon, persévérer et étudier quotidiennement, comme le faisaient les Véréens. Allons à 1 Jean 4, verset 1. Alors que nous examinons toutes choses, 1 Jean 4, verset 1. Cela nous donne une image un peu plus claire, un peu plus large ici. Une instruction qui s'adresse à nous alors que nous mettons tout à l'épreuve, alors que nous étudions quotidiennement les Écritures, comme le faisaient les Véréens. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Je veux simplement mettre l'accent sur le fait d'éprouver les esprits, pour voir s'ils viennent de Dieu. Éprouver les attitudes, pour voir si elles viennent de Dieu. Éprouvez-les et examinez leurs fruits. Vous les verrez. Je ne parle pas seulement ici, dans l'Église, bien sûr, alors que nous restons fermement ancrés dans la vérité. Oui, nous les éprouvons. Nous devons les mettre à l'épreuve. Nous devons voir les fruits. Et les fruits que nous voyons doivent être manifestes. mais aussi dans ces situations, alors que nous sommes des piliers qui tenons bon, face au vent qui souffle autour de nous et au monde qui nous entoure, nous devons également veiller à éprouver les esprits. Nous éprouvons les attitudes, les choses qui pourraient nous distraire. Comme nous l'avons entendu dans le premier message, pour garder notre attention claire, pour garder notre attention centrée. Nous mettons à l'épreuve les esprits des choses de ce monde qui pourraient nous distraire, qui pourraient nous éloigner. Quelles sont ces attitudes? Où se trouvent-elles? Où se cachent les esprits sous-jacents de ces choses de ce monde qui pourraient nous éloigner, qui pourraient nous empêcher de rester fermes, de tenir bon? Nous devons vérifier la vérité, car nous sommes des piliers dans l'Église de Dieu. Le point suivant, nous devons mettre la vérité en pratique. Nous devons être actifs. Jean 3, verset 21. Allons à Jean 3, verset 21. Oui, c'est un peu contre-intuitif, je suppose, dans notre esprit. Nous pensons à nous-mêmes. Nous nous regardons, et nous imaginons un pilier. Et un pilier reste debout. Un pilier n'est pas très actif dans notre esprit. Il y a des piliers dans cette salle. Elles sont toujours là. Elles ne bougent pas. Nous sommes des piliers dynamiques. Nous sommes des piliers vivants. En tant qu'êtres humains, en tant que futurs êtres divins, et en tant qu'êtres humains remplis du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes des piliers vivants. Mais nous devons agir. Que devons-nous faire? Nous devons pratiquer la vérité. Et nous allons nous reporter à Jean 3, verset 21. Lisons simplement le verset 21 pour commencer. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, et qu'elles soient l'œuvre de Dieu. Elles sont l'œuvre de Dieu. Nous aurions pu nous reporter à un verset à ce sujet. Mais elles sont la volonté de Dieu. Afin que nos œuvres soient manifestées, qu'elles soient l'œuvre de Dieu. Qu'elles soient la volonté de Dieu. Passons simplement au verset 18. Nous avons abordé ce que Christ disait ici, ce que la parole de Dieu dit ici, ce que Dieu nous enseignait. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et au verset 19, et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Les hommes préfèrent rester dans les ténèbres. Les hommes ne veulent pas venir à la lumière. Avant d'être appelés, avant de recevoir le Saint-Esprit de Dieu lors du baptême, nous recherchions les ténèbres. Nous ne recherchions pas la lumière. Nous ne voulions pas de la lumière. Nous ne voulions pas que nos œuvres soient dévoilées. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et nous, depuis que nous avons été appelés, nous voulons que nos œuvres soient dévoilées. Nous voulons que nos œuvres soient mises en lumière. Relisons le verset 21. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Nous avons entendu ce qu'est la vérité. La vérité, ce sont les enseignements de Dieu par l'intermédiaire de ses serviteurs, et nous lisons aussi les écrits produits par l'Église de Dieu qui nous réprimande, qui nous attire vers la lumière, qui nous montre et nous enseigne où nous devons peut-être faire un ajustement, et qui nous montre ainsi en quoi ce que nous faisons est juste. Ce que nous faisons est la volonté de Dieu. Et pratiquer la vérité nous conduit vers la lumière, elle éclaire notre pilier. Elle met ainsi en lumière qui nous sommes. Mais si vous vous souvenez, en revenant à Apocalypse chapitre 3, verset 12, Christ a parlé de celui qui triomphe. Celui qui triomphe, qui change sa conduite et adapte sa volonté à celle de Dieu, qui modifie ces choses que la lumière révèle dans notre vie, que nous voyons. Nous nous tournons vers Dieu pour nous repentir, nous nous tournons vers Dieu pour qu'il nous aide à changer par son Saint-Esprit. C'est grâce à ce processus, où nous mettons la vérité en pratique, que nous pouvons finalement vaincre et devenir un pilier dans le temple de Dieu. Allons à Jacques 1, verset 22, un verset que nous citons souvent lorsque nous parlons de mettre en pratique. La parole de Dieu, nous pouvons l'entendre, mais la mettons-nous en pratique? Jacques 1, verset 22, et nous venons justement de voir ce que signifie mettre en pratique la vérité, mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, elle nous conduit vers la lumière. Mais ici, c'est un commandement, une instruction, soyez des pratiquants de la parole et non pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. Nous devons être des pratiquants de la parole. La parole de Dieu est la vérité. Nous devons être des pratiquants de la vérité. Je pourrais tout aussi bien dire, dans ce passage, soyez des pratiquants de la vérité. Passons à Romains 2, verset 13. Un autre verset similaire, mais un bon rappel à lire. Romains 2, verset 13. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce ne sont pas seulement ceux qui écoutent. Prenons un instant pour bien comprendre cela. Ce ne sont pas seulement ceux qui l'entendent qui sont justes devant Dieu. Il y a une action qui entre en jeu. Nous devons faire plus que simplement laisser la parole entrer dans notre esprit. Mais ceux qui mettent la loi en pratique seront justifiés. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui mettent en pratique la vérité de Dieu, seront justifiés, deviendront des piliers du temple. Et ceux qui la mettent en pratique aujourd'hui sont les piliers de l'Église de Dieu. Passons à Jean 4. Verset 23 pour le point suivant. Jean 4, verset 23. L'adoration en esprit et en vérité. Laissez-moi vous rattraper. Passons à Jean. Je cite presque mot pour mot l'écriture ici, mais nous devons adorer en esprit et en vérité. Nous mettons la vérité en pratique. Nous nous appuyons sur la vérité. Nous triomphons. Nous sommes attirés vers la lumière, nos œuvres sont approuvées. Chapitre 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs. Ainsi, Dieu, le Père, recherche en effet ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Nous avons vu ce que nous devons faire pour vivre dans la vérité, sur quoi nous devons nous appuyer. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. C'est donc par le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous sommes appelés, nous devons être baptisés. Nous devons recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, ce verset ne peut s'appliquer. Nous ne pouvons pas mettre ce verset en pratique. Nous ne pouvons pas suivre cette instruction si nous n'avons pas été baptisés, si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Mais Dieu nous dit ici, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Or, c'est là l'un de nos points. Réfléchissons un instant à notre situation. Si la vérité n'était pas là, que serions-nous? Que serions-nous? Nous ne serions qu'un groupe de personnes se réunissant pour, disons que, pour une raison étrange, la vérité n'est pas là. Nous nous apprécions peut-être les uns les autres. Nous nous entendons bien. C'est possible. Bien sûr, c'est le cas. Nous nous entendons bien. Mais nous sommes ici. Nous ne sommes qu'un groupe social qui a décidé de se réunir un jour de la semaine, pour chanter quelques cantiques tirés d'un vieux livre et écouter des messages assez longs selon les normes d'aujourd'hui. Si nous n'adorons pas en esprit et en vérité, si nous n'avons pas ce fondement, que nous possédons pourtant bel et bien, mes frères, que sommes-nous? Rien d'autre qu'un groupe de communion étrange, une sorte de rassemblement social. C'est la vérité qui fait de nous ce que nous sommes. C'est la vérité qui nous rend capables de venir au culte et d'adorer Dieu correctement en esprit et en vérité. Pour être des piliers de l'Église de Dieu aujourd'hui, nous devons agir ainsi. Le point suivant, nous devons aimer la vérité. Nous avons parlé de mettre la vérité en pratique. Nous avons parlé de nous appuyer sur la vérité. Nous avons parlé d'adorer en esprit et en vérité. Nous devons aimer la vérité. Et comment devons-nous aimer la vérité? Allons à 2 Thessaloniciens 2, verset 10. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Comment devons-nous aimer la vérité? Encore une page pour moi. Ici, nous le décomposons en « bon », passons directement au verset 10 et avec toute l'injustice qui ne peut être déjouée chez ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. Et c'est pour cette raison, il s'agit là d'un temps futur, d'ailleurs, que peut-il se passer? Et c'est pour cette raison que Dieu leur enverra une puissante séduction, pour qu'ils croient au mensonge. Maintenant, regardons le verset 10 « N'ont pas reçu l'amour de la vérité ». Le mot « amour » ici est « agapé », l'amour divin, l'amour de Dieu pour la vérité. C'est l'amour que vous et moi devons avoir. Quelle importance la vérité revêt-elle pour Dieu? Quelle importance revêt toutes les instructions de Dieu, ses enseignements, son plan, ce qu'il fera pour toute l'humanité dans un avenir proche? Quelle importance revêtent les paroles de Dieu? À quel point Dieu aime-t-il ses paroles? Aime-t-il ses instructions à votre intention et à la mienne? Avons-nous cet amour pour la vérité? Nous pouvons nous y efforcer, et grâce au Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons y parvenir. Mais nous devons posséder cet amour. Et ici, la juxtaposition au verset 11 constitue en quelque sorte un avertissement pour nous tous. Pas seulement un peu. C'est un avertissement sérieux. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu pour sa vérité, si nous n'avons pas l'amour dont nous avons parlé, nous n'avons pas la vérité dont nous avons parlé. Que se passe-t-il alors? Dieu leur enverra une puissante séduction afin qu'ils croient au mensonge. À un certain moment, si nous ne grandissons pas, si nous ne continuons pas à grandir, ou si nous devenons amers, si nous nous détournons et abandonnons cette voie, Dieu enverra une puissante séduction. Dieu ne nous permettra plus de comprendre sa vérité. Alors, mes frères, dans quelle mesure nous efforçons-nous d'avoir l'amour de Dieu pour la vérité? D'avoir, dirais-je, tout son être qui est vérité. Toute son œuvre, toute sa raison d'être, c'est la vérité. Avons-nous cela en nous? Allons à Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15. Vous savez, lorsque nous assistons au culte aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer ce que ce serait de perdre l'amour de la vérité, de ne pas avoir l'amour de la vérité. À quel point c'est important de ne pas avoir l'amour de Dieu pour la vérité. Nous sommes ici parce que nous aimons ce que Dieu nous enseigne. Nous aimons les vérités extraordinaires que Dieu nous a données. Nous avons la chance de faire partie de sa famille. Nous avons la chance d'être l'un de ses fils, l'une de ses filles. Nous avons la chance d'avoir Christ comme frère aîné. Nous avons la chance de régner dans le royaume de Dieu, avec tout ce que cela implique. À quel point aimons-nous cette vérité? Cette vérité ne se trouve nulle part ailleurs. Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Dire la vérité dans l'amour. C'était une parenthèse. Il y a une petite précision supplémentaire pour vous et moi. Oui, nous avons la vérité. Et nous pouvons éprouver une fierté légitime, je dirais, et être fiers de garder la vérité de Dieu, de connaître la vérité de Dieu. Mais souvenez-vous, pour ceux qui nous entourent, et dans ce verset, dire la vérité dans l'amour, est-ce que nous brandissons notre vérité devant ceux qui nous entourent, ceux qui nous voient dans le monde? Je respecte le sabbat. Je suis meilleur que vous tous. Je suis meilleur que mes collègues. Ou bien respectons-nous la vérité de Dieu, et la respectons-nous dans l'amour, en adoucissant peut-être un peu nos angles, en faisant preuve de gentillesse et d'attention. Et oui, nous montrons notre fermeté, par exemple en ne violant pas le sabbat, en cessant de travailler dès le coucher du soleil, et bien avant, en nous préparant pour le jour du sabbat bien à l'avance. Il voit nos actions. Mais restons-nous fidèles à la vérité, dans l'amour. Et surtout, passons au verset 16, car qu'est-ce qui nous unit tous, qu'est-ce qui nous maintient ensemble, qu'est-ce qui nous rapproche les uns des autres? Nous l'avons lu dans un autre verset tout à l'heure, c'est ainsi que tout le corps, bien coordonné et solidement uni par l'action de chaque articulation, selon le fonctionnement efficace et la mesure de chaque partie, s'accroît pour s'édifier lui-même dans l'amour. Mais d'abord, c'est la vérité qui nous unit étroitement, qui met en place nos articulations, nous faisons tous partie du corps du Christ, nos articulations sont liées entre elles, les articulations les unes aux autres. C'est la vérité qui nous unit, qui nous assemble si harmonieusement. La vérité sur laquelle nous devons nous appuyer. Frères et sœurs, souvenez-vous du modèle avec lequel nous avons commencé. Souvenez-vous de l'emblème qui a été inspiré par Dieu, mûrement réfléchi par M. Pack pendant un certain temps avant d'être apposé sur l'emblème de l'Église. C'est important. C'est quelque chose que, peut-être, après aujourd'hui, je sais que je ferai. J'espère que vous le ferez tous. Souvenez-vous de ces paroles. Nous sommes l'Église de Dieu restaurée, l'Église reconstituée en cette ère et en ce temps. Nous sommes des piliers reposant sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ouvrons l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Imaginons-nous dans cette situation. Nous venons de relire cela, notre phrase, notre devise, notre source d'inspiration, en quelque sorte. Plongeons-nous tous dans cet instant précis, où nous entendons Dieu et Christ, enfin réunis, nous remettre notre récompense. Lisons Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans le temple de Dieu. Et comme nous sommes des colonnes dans le temple de Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Frères et sœurs, nous mettons en pratique tout ce dont nous avons parlé cet après-midi. Nous serons là, et nous serons faits colonne dans le temple de Dieu.